Chapitre 10. Lorsque Dorothée se retrouva à la porte de Lydgate et s'adressa à Marthe, Lydgate était dans la chambre à côté, se préparant à sortir. Il entendit sa voix et vint immédiatement à elle. « Croyez-vous que Mrs. Lydgate puisse me recevoir ce matin ? » demanda-t-elle, ayant réfléchi qu'il vaudrait mieux laisser de côté toute allusion à sa première visite. « Je ne doute pas qu'elle le veuille, » dit Lydgate, réprimant la pensée que faisait naître en lui la mine de Dorothée, aussi altérée que celle de Rosemonde. « Si vous voulez être assez bonne pour entrer et me permettre de la prévenir que vous êtes ici. » »« Elle n'a pas été très bien depuis votre visite d'hier, mais elle est mieux ce matin, et je crois que très probablement cela lui fera du bien de vous voir. » Il était clair, comme Dorothée s'y était attendue, que Lydgate ne savait rien des circonstances de sa visite de la veille. Il paraissait même croire que tout s'y était passé au gré de ses intentions. Elle avait préparé un billet dans lequel elle demandait à Rosemonde de la recevoir et qu'elle eût donné à la domestique si Lydgate ne se fût pas trouvé là. Mais maintenant, elle était très inquiète du résultat de l'annonce de sa visite. Après l'avoir conduite au salon, Lydgate s'arrêta pour prendre une lettre dans sa poche et la remettre entre les mains de Dorothée en disant « J'ai écrit cela hier au soir et j'allais le porter à Lowick à cheval en passant. » Pour marquer la reconnaissance d'une chose qui est bien au-dessus des remerciements ordinaires, l'écriture est moins insuffisante que la parole. On n'entend pas au moins combien les mots sont loin de la chose. Le visage de Dorothée s'illumina. « C'est moi qui aurais à remercier davantage, puisque vous m'avez permis de prendre ce rôle. Vous avez consenti, dit-elle avec un doute subit. Oui, j'envoie le chèque à Bulstrode aujourd'hui. » Il n'en dit pas plus et monta trouver Rosemonde, qui venait à peine de terminer sa toilette et restait languissamment assise en se demandant ce qu'elle allait faire. Très adroite pour les petits ouvrages, elle était toujours tentée, même dans ses jours de tristesse, d'entreprendre quelque travail qu'elle poursuivait lentement et au milieu duquel, faute d'intérêt, elle s'interrompait. Tout en ayant recouvré sa placidité habituelle de manière, elle avait l'air malade. Lydgate avait craint de l'agiter en l'interrogeant. Il lui avait parlé de la lettre de Dorothée qui renfermait le chèque, et avait ajouté « Ladislav est venu, Rosie. Il est resté avec moi hier soir. Je pense qu'il reviendra aujourd'hui. Je lui ai trouvé l'air passablement abattu et déprimé. » Et Rosemonde n'avait rien répondu. En montant maintenant auprès d'elle, il lui dit très doucement « Rosie, ma chère, Mrs. Casaubon est encore venue pour vous voir. Vous aimeriez à la voir, n'est-ce pas ? » Elle rougit et fit un mouvement de saisissement, dont il ne fut pas surpris après l'agitation produite en elle par l'entrevue de la veille. Agitation bienfaisante, paraît-il, puisqu'elle semblait l'avoir rapprochée de lui. Rosemonde n'osa pas dire non. Elle n'osa pas, d'un son de sa voix, effleurer les incidents de la veille. Pourquoi Mrs. Casaubon était-elle revenue ? Pour toute réponse, Rosemonde ne trouvait qu'un vide, où la crainte seule avait place, car les paroles déchirantes de Will Ladislav ne lui permettaient plus de penser à Dorothée qu'avec un retour de poignante douleur. Cependant, dans cette nouvelle et humiliante incertitude, elle n'osa rien faire d'autre que de se soumettre. Elle ne dit pas oui, mais se leva, et laissa Lydgate lui jeter un châle sur les épaules en la prévenant qu'il allait sortir. Puis une idée lui traversa l'esprit, et elle lui dit « Veuillez avertir Marthe de ne laisser entrer personne au salon. » Et Lydgate l'approuva, croyant parfaitement comprendre ce désir. Il la conduisit en bas jusqu'à la porte du salon, et là s'éloigna, faisant la réflexion qu'il devait être un mari bien maladroit pour laisser dépendre de l'influence d'une autre femme la confiance que sa femme avait en lui. Rosemonde, enveloppée de son châle moelleux, s'avançait vers Dorothée, l'âme intérieurement enveloppée aussi d'une froide réserve. Mrs. Casaubon était-elle venue pour lui parler de Will ? S'il en était ainsi, c'était une liberté faite pour la blesser. Et elle se disposa à ne faire aux paroles de Dorothée qu'un accueil d'impassible politesse. Will avait trop grièvement meurtri son orgueil pour qu'elle pût éprouver de remords vis-à-vis de lui et de Dorothée. C'était elle-même qui avait à se plaindre d'une bien autre injure, Dorothée n'était pas seulement la femme préférée, elle avait aussi l'immense avantage d'être la bienfaitrice de Lydgate. Rosemonde souffrait d'une vague impression que cette Mrs. Casaubon, cette femme qui, dans tout ce qui la touchait, l'emportait sur elle, devait être venue maintenant avec le sentiment de ses avantages et avec une animosité qui la pousserait à s'en servir. Le fait est que non seulement Rosemonde, mais que toute autre personne, s'en tenant aux apparences, ignorant la simple inspiration qui faisait agir Dorothée, eût bien pu douter du motif de sa visite. Avec l'air du séduisant fantôme d'elle-même, ses sveltes et gracieux contours enveloppés de son léger châle blanc, sa bouche, sa joue pleine et jeune, ne respirant que la douceur et l'innocence, Rosemonde s'arrêta à quelques pas de sa visiteuse et s'inclina. Mais Dorothée, qui avait ôté ses gants par une impulsion irrésistible chez elle, quand elle désirait avoir un sentiment de liberté, s'avança, et le visage empreint d'une triste mais douce franchise, lui tendit la main. Rosemonde ne put éviter de rencontrer son regard, ne put éviter de mettre sa petite main dans celle de Dorothée, qui la serra avec une douceur maternelle. Et aussitôt un doute sur ses préventions de tout à l'heure commença à s'éveiller en elle. L'œil de Rosemonde était prompt à lire sur les visages. La figure de Mrs. Casaubon lui parut pâle et changée depuis la veille, mais douce et semblable à la ferme tendresse de sa main. Cependant, Dorothée avait un peu trop présumé de ses forces. La clarté et l'intensité de son travail intérieur du matin étaient la suite d'une exaltation nerveuse qui donnait à toutes les fibres vibrantes de son être une sensibilité comparable à celle d'un cristal de Venise. En regardant Rosemonde, elle sentit tout à coup son cœur se gonfler et fut incapable de parler. Elle avait besoin de tous ses efforts pour retenir ses larmes. Elle y réussit, et cette émotion ne fit que passer sur son visage comme l'âme d'un sanglot. Mais elle ajouta à l'impression de Rosemonde, qui pensa que l'état d'esprit de Mrs. Casaubon devait être quelque chose de tout différent de ce qu'elle avait imaginé. Elles s'assirent ainsi sans un mot de préambule sur les deux chaises qui se trouvaient le plus à portée, et par hasard tout à côté l'une de l'autre, bien que l'idée de Rosemonde, lorsqu'elle s'était inclinée d'abord, eût été de se tenir à une grande distance de Mrs. Casaubon. Mais elle cessa de réfléchir à la manière dont tout cela finirait, se demandant seulement ce qui allait venir. Et Dorothée se mit à parler tout simplement, plus ferme à mesure qu'elle poursuivait. « J'avais une commission à faire hier que je n'ai pas achevée, et c'est pourquoi je suis revenu si tôt. Vous ne me trouverez pas trop importune quand je vous aurai dit que je suis venu pour vous parler de l'injustice qu'on a montrée envers M. Lydgate. Cela vous fera du bien, n'est-ce pas, d'apprendre sur son compte beaucoup de choses dont il n'aime peut-être pas à parler lui-même, précisément parce qu'elles sont à sa justification et à son honneur. » Vous aimerez à savoir que votre mari a de chauds amis, qui n'ont pas cessé de croire à la noblesse de son caractère. Vous me permettrez de vous parler de cela sans me trouver indiscrète. » Les accents affectueux qui, d'un ton de prière, semblaient couler dans un généreux oubli au-dessus de tous les incidents qui avaient rempli le cœur de Rosemonde de motifs de contrainte et de haine entre elle et cette femme, vinrent doucement tomber comme un courant tiède sur ses craintes et les fondre. Mrs. Casaubon avait certainement ces incidents présents à l'esprit, mais elle n'allait parler de rien qui s'y rapporta. C'était en ce moment pour Rosemonde un trop grand soulagement pour lui permettre de rien ressentir fortement à côté. Elle répondit gentiment dans la tranquillité nouvelle de son âme, « Je sais que vous avez été très bonne. Je serai heureuse d'entendre tout ce que tous me diraient de Tertius. » Avant-hier, dit Dorothée à Lowick, où je lui avais demandé de venir me donner son avis sur les affaires de l'hôpital, il m'a raconté toute sa conduite et ses sentiments dans ce triste événement qui lui a valu les soupçons des ignorants. S'il m'a tout dit, c'est que j'ai été très hardi et que je le lui ai demandé. J'étais convaincu que jamais il n'avait manqué à l'honneur et je l'ai prié de me raconter toute l'histoire. Il m'a avoué qu'il ne l'avait jamais raconté à personne, pas même à vous, parce qu'il lui répugnait de dire « je n'étais pas coupable », comme si c'était une preuve suffisante quand il y a des coupables qui tiennent le même langage. La vérité est qu'il ne savait rien de cet homme, de ce Raffles, ni qu'il y avait de vilains secrets sur son compte. Et il a cru que si M. Bulstrode lui offrait de l'argent, c'était parce qu'il se repentait, dans sa bonté, de le lui avoir refusé auparavant. Toute sa préoccupation, à propos de son malade, était de le bien traiter, et il a été un peu ennuyé de voir le cas se terminer autrement qu'il ne s'y attendait. Mais il a pensé alors, et il pense encore, qu'il peut ne pas y avoir de faute de la part d'un autre. Et j'ai répété cela à M. Fairbrother, à M. Brooke, à Sir James Chatham. Ils croient tous en votre mari. Cela vous remontera, n'est-il pas vrai? Cela vous donnera du courage. » Le visage de Dorothée s'était animé, et comme il rayonnait sur Rosemonde, assise tout près d'elle, celle-ci, en présence de cette ardeur oublieuse de soi-même, éprouva quelque chose comme une timidité modeste devant un être supérieur. Elle dit avec embarras et en rougissant, « Merci, vous êtes très bonne. » Et il sentait combien il avait eu tort de ne pas s'ouvrir à vous de tout cela. Mais vous lui pardonnerez, c'est qu'il s'inquiète plus de votre bonheur que de toute autre chose. Il sent que sa vie est liée et n'en forme qu'une avec la vôtre. Et ce qui le fait souffrir plus que tout, c'est de penser que ses malheurs à lui doivent vous faire souffrir. Il a pu me parler parce que j'étais une personne étrangère. Et alors je lui ai demandé si je pourrais venir vous voir, moi qui partageais tant ses soucis et les vôtres. Voilà pourquoi j'étais venu hier et pourquoi je suis venu aujourd'hui. La peine est si dure à supporter, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous vivre en pensant que quelqu'un a des soucis cruels, que nous pourrions l'aider, que nous n'essayons jamais? Dorothée, emportée par le sentiment qu'elle exprimait, oublia tout, si ce n'est qu'elle s'adressait, du cœur même de sa propre épreuve, au cœur de l'épreuve de Rosemonde. L'émotion avait de plus en plus gagné ses paroles. Il y avait dans le ton de sa voix quelque chose qui vous pénétrait jusqu'à la moelle, comme dans le faible cri de quelque créature souffrant dans les ténèbres. Et inconsciemment, elle avait posé sa main sur la petite main qu'elle avait pressée auparavant. Rosemonde, avec un saisissement de douleur irrésistible, comme si on venait de sonder en elle quelque blessure profonde, éclata en pleurs nerveux, comme elle l'avait fait la veille, lorsqu'elle s'était pendue au cou de son mari. La pauvre Dorothée sentait son chagrin revenir sur elle comme une grande vague. Elle se demandait, malgré elle, quelle part pouvait avoir Will Ladislav dans le trouble d'esprit de Rosemonde. Elle commençait à craindre de n'être pas capable de se contenir assez jusqu'à la fin de l'entrevue. Et tandis que sa main reposait toujours sur les genoux de Rosemonde, dont la main s'était retirée, elle luttait contre les sanglots qui lui soulevaient la poitrine. Elle essaya de se dominer par la pensée que cet instant pouvait, dans trois vies, être un point décisif, pas dans la sienne, non. La sienne en était à l'irrévocable, mais dans ces trois vies qui la touchaient par le voisinage solennel du danger et de la détresse. Cette fragile créature qui pleurait tout près d'elle, il était peut-être encore temps de la sauver de la misère des liens irréguliers et faux. Cet instant était unique. Jamais elle et Rosemonde ne pourraient se retrouver ensemble avec une image aussi saisissante de la scène de la veille imprimée au cœur. Les rapports qui existaient entre elles étaient assez particuliers pour lui donner, elle le sentait, une influence particulière, sans se douter que la manière dont ses propres sentiments s'y trouvaient mêlés fut connue de Mrs. Lydgate. C'était dans l'expérience de Rosemonde une crise plus nouvelle que Dorothée même ne pouvait l'imaginer. Elle était sous le coup du premier grand choc qui avait brisé en morceaux tout le monde de ses rêves, ce monde dans lequel elle avait toujours été si facilement confiante en elle-même et si peu indulgente aux autres. Et cette manifestation étrange, inattendue, de sympathie, chez une femme dont elle s'était approchée avec une aversion et une répugnance craintive, comme de quelqu'un qui devait nécessairement lui porter une haine jalouse, bouleversait son âme par le sentiment d'avoir constamment marché dans un monde qu'elle ne connaissait pas et qui venait maintenant de fondre sur elle. Quand les sanglots convulsifs de Rosemonde commencèrent à s'apaiser et qu'elle retira le mouchoir sous lequel elle s'était caché la figure, ses yeux rencontrèrent ceux de Dorothée avec un regard aussi impuissant que l'aurait été celui de deux petites fleurs bleues. À quoi bon se préoccuper encore de son attitude après ses pleurs de tout à l'heure? Et Dorothée n'avait pas moins l'air d'une enfant qu'elle, avec la trace visible d'une larme silencieuse. La barrière de l'orgueil était abattue entre les deux femmes. « Nous parlions de votre mari, » reprit timidement Dorothée. « Je lui ai trouvé l'autre jour une expression tristement changée par la souffrance. Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs semaines. Il m'a dit qu'il s'était senti très abandonné dans son épreuve. Mais je crois qu'il aurait mieux supporté tout cela s'il avait pu être tout à fait ouvert avec vous. Tertius est si impatient et si irritable, quand je dis quelque chose, repartit Rosemonde, s'imaginant qu'il s'était plaint d'elle à Dorothée. Il ne devrait pas s'étonner que je refuse de causer avec lui de sujets pénibles. C'est à lui-même qu'il a fait le reproche de n'avoir pas parlé, dit Dorothée. Ce qu'il a dit de vous, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de bonheur pour lui à faire une chose qui vous rendit malheureuse, que son mariage était un lien naturel fait pour peser sur toutes ses décisions. Et pour ce motif, il n'a pas voulu conserver sa position à l'hôpital parce que cela l'obligerait à rester à Middlemarch et qu'il ne veut rien entreprendre qui puisse vous être pénible. Il a pu me dire cela à moi parce qu'il sait que j'ai eu beaucoup d'épreuves dans mon mariage, à cause de la maladie qui est venue frapper mon mari et entraver son œuvre. Il sait que j'ai éprouvé combien il est dur de marcher constamment avec la crainte de froisser un autre être qui est lié à nous. Dorothée attendit un peu. Elle avait discerné un faible éclair de joie qui s'était glissé sur la figure de Rosemonde. Mais elle n'obtint pas de réponse, et elle continua avec un tremblement croissant. Le mariage est une chose si différente de tout autre. Il y a même quelque chose de terrible dans le rapprochement qu'il amène. Même d'aimer un autre, mieux que ceux auxquels nous sommes mariés, cela ne servirait à rien. La pauvre Dorothée, dans son anxiété palpitante, était forcée de s'interrompre pour suivre le fil de ses idées. Je veux dire que, mariés, il n'y a pour nous, dans un amour de ce genre, de félicité ni à donner, ni à attendre. Je sais que cela peut être très doux, mais cela tue le mariage. Et alors le mariage, c'est comme un meurtre qui ne nous quitte plus, et c'est tout ce qui nous reste. Et alors notre mari, s'il nous aimait, s'il avait confiance en nous, et si nous n'avons pas été un appui, mais si nous n'avons été qu'une malédiction dans sa vie. Sa voix était tombée très bas. Elle était saisie de la crainte de trop se permettre et de parler comme si elle-même était la perfection s'adressant à l'erreur. Elle était trop préoccupée de sa propre angoisse pour s'apercevoir que Rosemonde tremblait aussi, et remplie du besoin d'exprimer une sympathie compatissante plutôt qu'un blâme, elle posa ses mains sur celles de Rosemonde et reprit dans une agitation plus rapide « je sais que ce sentiment peut être très doux. Il s'est emparé de nous à notre insu. Il est si dur, cela peut sembler pire que la mort, de s'en séparer. Et nous sommes faibles, je suis faible. » Les flots de son chagrin, dont elle tâchait de se dégager pour sauver une autre, fondirent sur Dorothée avec une force supérieure. Elle s'arrêta dans une agitation muette, ne pleurant pas, mais se sentant au cœur comme une étreinte profonde. Son visage avait pris une pâleur mortelle. Ses lèvres tremblaient, et dans sa détresse, elle pressait de ses mains celles de Rosemonde. Rosemonde, dominée par une émotion plus forte que la sienne propre, entraînée par une impulsion nouvelle qui donna à toute chose comme un aspect nouveau, terrible, indéfini, ne put trouver de parole. Mais involontairement, elle posa ses lèvres sur le front de Dorothée, qui se trouvait tout près d'elle. Et pendant l'espace d'une minute, les deux femmes s'étreignirent comme deux naufragés. « Ce que vous croyez n'est pas, » dit Rosemonde, dans un demi-murmure précipité. Tandis qu'elle sentait toujours le bras de Dorothée passer autour d'elle, et poussée par une mystérieuse nécessité de se délivrer de quelque chose qui l'oppressait comme le poids d'un crime. Elles s'éloignèrent l'une de l'autre en se regardant. « Lorsque vous êtes entrée hier, ce n'était pas ce que vous pensiez, » répéta Rosemonde du même ton. Il se fit un mouvement d'attention surprise chez Dorothée. Elle s'attendait à une justification de Rosemonde d'elle-même. Il me disait combien il aimait une autre femme, et pourquoi il ne pourrait jamais m'aimer, dit Rosemonde, précipitant de plus en plus ses paroles. Et maintenant je crois qu'il me hait parce que hier vous vous êtes méprise sur son compte. Il dit que c'est à cause de moi que vous penserez mal de lui, que vous le croirez faux, mais ce ne sera pas à cause de moi. Il n'a jamais eu d'amour pour moi, je sais qu'il n'en a jamais eu. Il n'a jamais eu qu'une pauvre opinion de moi. Il me disait hier qu'à côté de vous n'existait pas d'autre femme pour lui, que le blâme de ce qui est arrivé retombe tout entier sur moi. Il m'a dit qu'à cause de moi, il ne pourrait jamais s'expliquer avec vous. Il m'a dit que plus jamais vous ne pourriez l'estimer. Mais maintenant je vous ai tout dit, et il ne pourra plus rien me reprocher. Sous l'empire d'impulsions qu'elle n'avait jamais connues auparavant, Rosemonde avait délivré son âme. Elle avait commencé sa confession sous l'influence entraînante de l'émotion de Dorothée, et à mesure qu'elle continuait, le sentiment s'établissait en elle qu'elle éloignait d'elle ses reproches de Will, qui étaient encore au fond de son cœur comme une blessure saignante. La révulsion des sentiments chez Dorothée était trop forte pour s'appeler de la joie. C'était un tumulte dans lequel le terrible effort de la nuit et de la matinée laissait encore son empreinte de douleur. Elle pouvait seulement entrevoir que tout cela deviendrait de la joie, quand elle aurait recouvré le pouvoir de le sentir. Sur le moment, elle n'éprouvait rien qu'une immense sympathie sans contrainte. Elle n'avait plus de lutte à soutenir désormais pour s'occuper de Rosemonde, et elle répondit gravement à ses dernières paroles « Non, il ne pourra plus rien vous reprocher. » Avec sa disposition à exalter toujours le bien chez les autres, elle se sentit au cœur un grand élan vers Rosemonde, pour le généreux effort qu'il avait délivré de sa souffrance, sans voir dans cet effort le reflet de sa propre énergie. Après un moment de silence, elle dit « Vous n'êtes pas fâché que je sois venu ce matin ?»« Non, vous avez été très bonne pour moi, » dit Rosemonde. « Je ne comptais pas sur tant de bonté. »« J'étais très malheureuse. Je ne suis pas heureuse maintenant. Tout est si triste. » »« Mais il viendra de meilleurs jours. On rendra justice à votre mari. Et il compte sur vous pour l'encourager. Il vous préfère à tout. Perdre cela serait la perte suprême. Et vous ne l'avez pas perdu, » dit Dorothée. Elle s'efforçait d'éloigner d'elle la pensée trop dominante de son propre soulagement. Elle ne voulait rien négliger pour obtenir de Rosemonde quelque signe que son affection aspirait de nouveau à revenir vers son mari. « Tertius ne m'a donc rien reproché ?» demanda Rosemonde, comprenant maintenant que Lydgate aurait pu dire n'importe quoi à Mrs. Casaubon, et qu'elle était certainement bien différente des autres femmes. Peut-être y avait-il une faible nuance de jalousie dans cette question. Un sourire commença à se jouer sur les traits de Dorothée, comme elle répondait « Non, certainement. Comment avez-vous pu l'imaginer ?» Mais ici, la porte s'ouvrit et Lydgate entra. « C'est le médecin qui revient, » dit-il. « À peine parti, j'ai été hanté par deux pâles visages. Mrs. Casaubon semblait avoir autant besoin de soins que vous-même, Rosie. Et j'ai pensé que j'avais manqué à mon devoir en vous laissant ensemble. » Aussi, après avoir été chez Coleman, suis-je revenu à la maison. J'ai remarqué que vous étiez venu à pied, Mrs. Casaubon, et le ciel a changé. Nous pourrions, je crois, avoir de la pluie. Faut-il faire dire à votre voiture de venir vous prendre ? Oh non, je suis forte. J'ai besoin de marcher, dit Dorothée, se levant, le visage plein d'animation. Mrs. Lydgate et moi, nous avons beaucoup bavardé, et il est temps que je m'en aille. On m'a toujours reproché de manquer de mesure et de trop parler. » Elle tendit la main à Rosemonde, et elles se dirent un adieu sérieux et calme, sans baiser ni autre marque d'effusion. Qu'avait-elle besoin entre elles de ces signes extérieurs, après la grave émotion de leur entrevue? Pendant que Lydgate la reconduisait jusqu'à la porte, elle ne dit rien de Rosemonde, et lui parla seulement de M. Fairbrother, et de ses autres amis qui avaient écouté avec confiance le récit de son histoire. Quand il revint auprès de Rosemonde, elle s'était déjà jetée sur le sofa dans une lassitude résignée. « Eh bien, Rosie, » dit-il, se tenant debout devant elle et caressant ses cheveux, « que pensez-vous de Mrs. Casaubon, maintenant que vous avez bien vu ce qu'il y a en elle ? Je pense qu'elle doit être meilleure que n'importe qui, dit Rosemonde, et elle est bien belle. Si vous allez si souvent la voir, vous serez plus mécontent de moi que jamais. Lydgate rit de ce si souvent. Mais vous a-t-elle rendu un peu moins mécontente de moi?
Je crois que oui, dit Rosemonde, levant les yeux sur lui.
Comme vous avez les yeux battus, Tertius, et puis repoussez un peu vos cheveux en arrière.
Il leva sa grande main blanche pour lui obéir, et se sentit reconnaissant de cette petite marque d'intérêt.
L'imagination vagabonde de la pauvre Rosemonde était revenue de ses voyages terriblement châtiés, assez faible pour se réfugier maintenant sous l'abri jadis dédaigné. Et l'abri était toujours là. Lydgate avait accepté sa destinée amoindrie avec une triste résignation. C'était lui qui avait choisi cette fragile créature et chargé ses bras du fardeau de cette existence. Il devait marcher comme il pourrait et porter son fardeau avec pitié.